conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, la mondialisation est-elle intelligible ? Dans De l'esprit des lois, Montesquieu défendait l'idée que la dépendance par le commerce entraîne l'adoucissement des mœurs. Je le cite. « Le commerce guérit des préjugés destructeurs, et c'est presque une règle générale que partout où il y a des mœurs douces, il y a du commerce. Et que partout où il y a du commerce, il y a des mœurs douces. L'effet naturel du commerce est de porter à la paix. Deux nations qui négocient ensemble se rendent réciproquement dépendantes. Si l'une a intérêt d'acheter, l'autre a intérêt de vendre. Et toutes les unions sont fondées sur des besoins mutuels. » Fin de citation. Il semble bien que cette promesse a été trahie. Jamais les nations n'ont été aussi interdépendantes économiquement et financièrement. Jamais il n'y a eu une globalisation aussi active, notamment sur le plan marchand. Et pourtant, dans le même temps, les peuples aspirent de plus en plus à se séparer humainement, à faire sécession par rapport au grand tout. Des tensions surgissent presque partout entre liens économiques et liens humains, entre marché et démocratie. Et d'aucuns veulent même construire des murs de séparation là où il n'y en a jamais eu. On parle d'une poussée des communautarismes religieux, d'une montée des nationalismes, et ce n'est même pas la peine de faire un dessin. Il y a eu le Brexit, il y a Trump en Amérique, Poutine en Russie, Erdogan en Turquie, le repli de la Chine, la montée des dépenses d'armement, le renfermement un peu partout, le refus de l'autre, la dénonciation des élites et surtout du système, entre guillemets. Que se passe-t-il donc? Comment comprendre ce qui a effectivement lieu? Qu'est-ce qui tourmente le lien entre les parties et le tout? Les sciences sociales peuvent-elles nous aider, grâce à une sorte de paradoxe, à déchiffrer ce qui nous est souvent présenté sous la forme de tableaux de chiffres? Pour discuter de ces questions, j'ai invité deux spécialistes. Le premier, Alain Supiot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes juriste, professeur au Collège de France, et vous êtes également l'auteur en 2015 d'un livre remarqué intitulé « La gouvernance par les nombres ». Et Stéphane Rosès, que les auditrices et les auditeurs de France Culture connaissent bien, qui est consultant, enseignant à Sciences Po et HEC, et auteur d'un article intitulé « L'imaginaire français et les autres, à l'épreuve de la mondialisation », article à paraître dans la revue Commentaires du mois de mars prochain.
Bonjour.
Bonjour. Alors, j'ai une première question à poser à l'un et à l'autre. La France est l'un des pays les plus pessimistes du monde, c'est ce que montrent les enquêtes. Est-ce que ça s'explique, Stéphane Rosès?
Peut-être par votre propos introductif et le titre. C'est un paradoxe. La situation économique et sociale de la France, quoique dégradée dans la dernière période, est quand même toujours très avantageuse. Comparons la situation, par exemple, du salariat français à la situation du salariat allemand, pays le plus compétitif, ou nos amis anglais. La situation est très avantageuse encore. Et nous sommes les plus pessimistes au monde. C'est que, sans doute, le rapport des Français à leur environnement aux autres ne dépend pas seulement de questions économiques et sociales. Et les replis dans le monde dont vous parliez partout, dans un laps de temps très court, n'affectent pas seulement les pays ou les catégories sociales en difficulté économiquement. Alors, sans doute, la France a un problème spécifique dans cette crise et ces replis que nous connaissons, c'est que justement, la façon dont les Français nouent un rapport au réel, leur imaginaire, a absolument besoin d'une projection dans l'espace, dans le temps, dans un projet, une vision. Et ces trois dimensions sont en crise, et pour en rester à celle de la mondialisation, les Français peinent à comprendre la mondialisation, ces paradoxes que vous indiquez. On commerce plus ensemble et pourtant on se replie entre nous. Et puis elle est insérée dans une Europe des procédures, alors que économique, juridique, alors que les Français ont besoin, au contraire, de se projeter sans cesse dans des questionnements de nature politique en résolvant la question du pourquoi. Donc la difficulté à comprendre le monde, à se projeter dans le monde, étouffe peu à peu l'énergie des Français. Normalement,
ce que vous appelez le monde, c'est l'espace-temps, c'est-à-dire à la fois une dimension historique et une dimension spatiale.
Oui, la dimension historique, c'est l'idée de progrès. Qui avec le capitalisme financier est en crise. Les Français ne pensent pas que demain sera meilleur pour eux ou leurs enfants. Et l'espace-temps, c'est que c'est Malraux, la phrase est ressortie au moment du Brexit, qui disait les Anglais ne sont jamais aussi grands que quand ils sont seuls, alors que les Français ont toujours besoin d'embrasser les autres. Les croisades, disait-il, avant les guerres napoléoniennes. Donc les Français ont sans cesse besoin de se projeter quand le monde réel semble leur dire « Ah ben non, 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 c'est l'extérieur qui donne le là et c'est un extérieur qu'ils ne comprennent pas et nos gouvernants semblent accompagner un mouvement où la survie et le destin de la France dépendraient d'un extérieur immaîtrisé dans lequel les Français ne peuvent plus se déployer.
Alain Supiot, le juriste que vous êtes, l'éminent juriste que vous êtes, comprend-il ce que dit Stéphane Rosès et partagez-vous cette analyse ?
Je comprends très bien. Je dois d'abord m'excuser parce que j'ai la voix cassée.
Le dicton de l'émission, c'est il vaut mieux avoir une extinction de voix qu'être en voie d'extinction.
Bon, d'abord peut-être, vous avez évoqué Montesquieu. On cite toujours ce passage, mais il est extrait de son contexte. Et Montesquieu disait que si le commerce est de nature à favoriser la paix dans les rapports entre les nations, il est de nature à ruiner la démocratie à l'intérieur de chacune d'elles, et qu'il faut veiller à ce qu'aucun pays ne soit sous l'emprise de l'esprit de commerce. Il disait aussi qu'il faut veiller à diviser les fortunes, afin que même les plus riches soient dans un état assez médiocre pour devoir travailler. Donc il faut reprendre cela dans son ensemble. Et il avait aussi une claire conscience de la diversité des montages culturels, historiques et institutionnels. C'est tout le thème de l'esprit des lois. Et les rationalistes lui en feront grief. Il y a un texte très intéressant de Condorcet qui dit « Mais qu'est-ce que c'est que cet intérêt de Montesquieu pour les rites des Tatars ou des Chinois ?» Si la raison est une, eh bien, il est normal que les lois soient une aussi tout autour de la planète. Donc, s'il y avait un ancêtre à trouver à l'idéal de la globalisation, ça serait plutôt Condorcet, sans vouloir charger le pauvre Condorcet de trop de choses, mais que Montesquieu. Et puisque le thème que vous nous proposez est mondialisation, en ce qui me concerne, je pense que nous devrions tirer parti pleinement de cette capacité que nous donnent les langues latines de distinguer la mondialisation de la globalisation.
Quelle est la différence ?
Alors, la globalisation, c'est justement la projection de ce que Hayek appelait la catalaxie, qui consiste à dire, au fond, nous partons des individus, ils sont identiques tout autour du monde et tous mus par la recherche de la maximisation de leur intérêt. Et nous avons donc à organiser le monde entier autour du commerce, entendu comme maximisation par chacun. Vous avez au fond, autour de la planète est peuplée de particules contractantes qui s'ajustent les unes les autres par des calculs d'utilité. Et il faut promouvoir cela à partir de ce qu'il appelait des lois naturelles, ce qui est quand même intéressant, cette référence à la nature qu'il empruntait à Hume, qui serait au fond la propriété, la responsabilité, le contrat auquel il prêtait des vertus universelles, qu'évidemment, la moindre anthropologie suffit à démontrer qu'elle n'existe pas. Par rapport à ce projet de globalisation, qui est aussi un projet d'uniformisation du monde, le mot mondialisation vient du latin « mundus », qui se définit par opposition à « immundus », donc le monde par rapport à l'immonde, ce qui correspond à la distinction que faisaient les Grecs entre le « chaos » et le « cosmos ». Donc le « chaos », c'est ce qui est pas vivable, inhabitable humainement, Et le cosmos, c'est ce qui va rendre, on va passer du chaos à un monde humainement vivable. Et c'est de là que vient aussi cosmétique, parce qu'il y a l'idée aussi de la beauté dans le cosmos. Donc, à mes yeux, les enjeux de la question que vous avez posée sont de savoir, est-ce qu'on réfléchit en termes de globalisation, c'est-à-dire d'un processus qui serait quasiment un processus de loi naturelle, qui nous conduirait à cette individualisation, à cette disparition, toute solidarité locale au profit simplement des calculs d'utilité et de ce qu'on peut appeler un marché total, ou bien est-ce qu'on essaie de penser l'avenir des hommes à partir de leur diversité? Et cette question qui se pose au niveau de la planète, elle se pose d'abord au niveau européen. Et c'est là que je rejoins tout à fait ce que vient de dire Stéphane Rosès. Pour que l'Europe reparte d'un bon pied, il faut qu'elle reparte de la richesse de sa diversité culturelle et non pas du projet d'un alignement sur la catalaxie et la globalisation.
Alors vous dites dans une interview que vous avez accordée à la revue Études au mois de septembre 2016, vous critiquez donc cette idée qu'il y aurait des lois naturelles et vous citez pour le faire une anecdote qui est racontée par Hérodote. Dans sa célèbre enquête, je vous cite plus exactement, Darius fit venir un jour devant lui des Grecs et des Indiens pour discuter de leurs coutumes mortuaires. Les Grecs furent horrifiés à l'idée de manger leurs morts comme le faisaient les Indiens, lesquels furent révulsés à l'idée de les brûler comme le faisaient les Grecs. Mais ni les uns ni les autres n'auraient admis qu'on traite le cadavre de leurs semblables comme de simples déchets. Il est donc aussi vain de se mettre en quête d'un droit naturel reconnu par tous, que d'ignorer la logique de l'interdit qui est propre à notre espèce. L'interdit établit la ternarité nécessaire à l'échange. Il est au sens propre interdiction, car il faut pour se parler et se comprendre avoir une référence commune. Faute de quoi, chacun est livré à son imagination folle et ne se réfère plus qu'à lui-même. Est-ce que c'est ça le problème de la mondialisation ou de la globalisation? Je ne sais pas ce qu'il faut dire dans ce cas, qui nous empêche de nous référer à une loi commune.
Oui, je crois Stéphane que oui, c'était. Je remercie Alain Supiot de cette citation parce que derrière ça, il y a la question des limites humaines et de la mortalité. Au fond, si on écoute les tenants de la globalisation, il semble dire que une société procède essentiellement de l'économie. Et que une bonne organisation du monde par l'économie, par exemple autour de l'avantage relatif ricardien, fait que les modalités de l'économie et du droit international actuellement qui se descotchent des imaginaires nationaux entraîneraient avec la prospérité les bienfaits. Ils ne comprennent pas ce qu'a précisé avec justesse Alain Supiot, c'est que quand Montesquieu énonce la possibilité d'une harmonie entre les peuples, c'est si les modalités du commerce international sont l'émanation de communautés nationales et d'imaginaires nationaux qui les précèdent. Et ce qui est très intéressant dans le livre d'Alain Supiot, La gouvernance par les nombres, c'est que, au fond, je ne sais pas s'il dirait les choses exactement comme ça, le néolibéralisme actuel, tel que moi je le comprends, c'est le contraire du libéralisme. C'est-à-dire que l'efficace économique se descotche des deux autres sujets qui fait l'imaginaire des peuples, dans leurs différences, les Tatars, les Grecs, les Indiens dont vous parliez à l'instant, c'est sans cesse des arbitrages entre le bon, ce qui culturellement tient une société, le juste socialement, et l'efficace économique. Et donc les individus sont prêts à aller très très loin dans l'efficacité économique, pourvu qu'il y ait justement cette harmonie. Le problème de la pensée néolibérale, de la pensée économiciste, de ceux qui pensent que l'économie fait la société, c'est qu'ils pensent, en pensant que l'économie fait la société, ils oublient une dimension première avant ça, c'est que si les individus s'assemblent, c'est justement parce qu'ils sont mortels. Et s'ils sont mortels, ils doivent ensemble affronter le réel au travers de procédures de pensée, de sensation, de création, d'innovation, de recherche, qui ont leur cohérence historique, que j'appelle l'imaginaire, et que donc ils s'assemblent pour faire société des tribus, des nations, des empires, pour d'abord affronter ensemble le réel, avant même la question de l'économie. Et que quand les individus, suivant en cela Condorcet, comme l'indique Alain Supiot, ou suivant les grands organismes internationaux, ou les grandes personnes qui dirigent les organismes internationaux, évidemment, ce sont les individus qui achètent les produits de la globalisation. Mais il arrive un moment où ils sont sous tension entre l'utilité économique immédiate telle qu'ils la voient et la déstructuration de leur vision du monde qui procède de leur conduite économique même, d'où les phénomènes de régression, d'où les phénomènes de passion triste et d'où, vous l'avez dit, les Trump, les Poutine, les renfermements, les montées des dépenses d'armement et un commerce international qui stagne puisque pour la première fois, le commerce international progresse moins vite que la production internationale.
Mais penser que l'économie précède la politique ou la transcende, est-ce que ça implique de gouverner par les nombres, pour reprendre Alain Supiot le titre de votre ouvrage? Est-ce que c'est ça la gouvernance par les nombres? C'est penser que tout doit se mesurer et obéir à des lois presque mathématiques qui seraient celles de l'économie?
Je ne pense pas que ça se réduise à l'économie. C'est lié à l'histoire des sciences sociales, dont il faudrait faire la critique et dont il faudrait prendre la mesure de la crise actuelle. Les sciences sociales naissent à partir du moment où on considère que grâce aux ressources de la quantification, la société peut être analysée comme un objet posé devant soi, c'est-à-dire qu'on a transposé à la compréhension de l'humain les méthodes qui venaient de la physique classique.
Et on s'est avec dit que, le déterminisme qui va avec.
On s'est dit que par la mesure et la quantification, on pourrait se faire une image juste de la société. Les sciences sociales ont beaucoup donné. Il ne s'agit pas ici de jeter le bébé avec l'eau du bain, mais elles portaient en elles une même base dogmatique que les sciences naturelles, et qui est de nature juridique. C'est cette division entre les personnes, les choses. Qui est un des points qui a permis à la science moderne de se développer, justement de regarder le monde autour comme un monde débarrassé d'esprit et de finalité qu'on va observer purement comme des choses. Or, transposer à l'étude de l'humain, ça pose de très grosses difficultés. Cet essor est comparable à celui de l'essor de la notion de société dont on s'est très bien passé jusqu'à la fin du XVIIIe pour parler des affaires humaines. La notion de société qui paraît incontournable aujourd'hui tellement elle est énorme, n'apparaît que avec le contrat social de Rousseau, mais encore beaucoup plus nettement au 19e, où à partir des quantifications du social, on va avoir deux grandes attitudes, celle qui consiste à attribuer à des causes biologiques des effets sociaux, et ça va donner le darwinisme social, le eugénisme, ou celle qui consiste au contraire à imputer des dérèglements physiques ou des taux de mortalité, par exemple, à des causes sociales. Et l'état social est largement né de ce courant-là. Mais quelque chose est perdu de vue dans les deux cas que suggérait Stéphane Rosès tout à l'heure. Et cette perte de vue s'exprime bien dans le succès d'une notion aujourd'hui très en vogue, qui est la notion de vivre ensemble. Or, ce sont les... On peut dire que des vaches vivent ensemble, et encore peut-être seulement dans la bétaillère, parce qu'il se passe dans les prés des choses que en éthologie on étudie de près. Chesterton écrit quelque part qu'il n'y a que les vaches qui vivent en parfaite économie, car elles ne songent qu'à brouter. Et que l'histoire de l'homme commence là où cessent les préoccupations simplement des vaches. Et faire société, l'une des premières apparitions du terme, et sa première définition, se trouve dans un de nos plus vénérables textes, qui est le Code de Justinien, où les juristes romains ils sont un peu lourdeaux, mais ils essaient d'être précis. Ils ont à distinguer, par exemple, quelle est la situation d'enfants qui ont hérité d'un bien. Ils sont en indivision. Ils ont un bien ensemble, mais ils n'ont pas choisi de l'avoir ensemble. Et puis ceux qui mettent ensemble des richesses pour accomplir quelque chose. Donc c'est la distinction entre l'indivision et le contrat de société. C'est là qu'apparaît, c'est une des premières apparitions de la notion de société. Et quel est le critère qu'il nous propose, qu'on va retrouver dans le Code civil, c'est de dire il y a un contrat de société parce qu'ils ont une entreprise commune. Ils poursuivent un but commun. Donc, ce qui les fait tenir ensemble, ce n'est pas simplement quelque chose qu'ils ont hérité, mais c'est aussi parce qu'ils se projettent ensemble dans un avenir. Alors ça, c'est difficile à appréhender avec simplement les instruments de la quantification.
Nous allons y revenir, mais le moment est venu d'écouter le premier morceau de musique que vous avez choisi. Le premier choix a été opéré par Stéphane Rodez. De quoi s'agit-il ?
Oh, ben, d'un compositeur contemporain, mais qui ramène à ce que j'adore, selon moi, c'est Bach et toute cette période, c'est Arvo Pärt. Le morceau que je viens de découvrir s'appelle, je crois, Mon cœur dans les Highlands. Et par ailleurs, c'était la musique d'un film, La Grande Bellezza, très beau film italien qui est sorti il n'y a pas longtemps.
Nous allons l'écouter. Musique magnifique, mais pourquoi ce choix ?
Eh bien, justement, parce qu'elle nous fait approcher que le son, la musique n'existe que parce qu'il y a du silence. Et c'est un peu notre conversation avec Alain Supiot. Et au fond, notre travail, c'est d'essayer de comprendre, derrière les apparences manifestes, les choses cachées qui fondent ça. Et Arvo Pärt, qui est aussi un spiritualiste, va chercher dans le silence ce qui fonde l'existence humaine et lui donne du prix. C'est bien parce que l'homme est limité qu'il y a civilisation, parce qu'il sait qu'il est limité et qu'il va mourir. Et c'est parce qu'il sait qu'il va mourir qu'il n'est pas, pour reprendre la métaphore d'Alain Supiot, il n'est pas une vache. Il s'assemble avec les autres en sans cesse construisant des pensées, des rites, des
Donc
créations.
Pas seulement pour commercer.
Voilà, pas seulement pour commercer. D'abord pour affronter ensemble un univers, un monde, de sorte de donner sens à sa vie.
Alain Supiot, je ne voudrais pas trop fatiguer votre voix, mais vous disiez tout à l'heure que vouloir exprimer des lois sociales comme les lois physiques le font pour le monde matériel, ça ne fonctionne pas, c'est une sorte d'utopie. Mais il y a quand même des lois en sciences sociales qui ne relèvent pas d'un déterminisme physicaliste, mais qui permettent de faire des prévisions. Par exemple, vous citez la loi selon laquelle il n'y a pas de paix durable sans justice sociale. Alors quel est le statut de ces lois dont vous parlez ?
Oui, je pense pas.
Ce sont pas des lois naturelles, ce sont des lois empiriques.
Je ne pense pas employer le terme de loi à ce sujet, à vrai dire. Et je parlerai plutôt d'expérience. Les sciences exactes, à partir de Boyle, enfin, du travail de Bacon, qui était aussi juriste, il faut le rappeler d'ailleurs, il a eu une pensée juridique en même temps que la pensée des sciences expérimentales. On fait une grande place à l'expérimentation qui consiste justement à mettre devant soi des objets, à les manipuler pour voir si on peut répéter l'opération pour en tirer une meilleure connaissance de l'univers. L'une des voies d'accès à la connaissance de l'humain, on peut procéder par des observations de l'extérieur pour comprendre l'humain. Mais il y a une dimension qui est liée à l'expérience qui ne relève pas des mêmes procédures. Je peux prendre l'exemple de Si vous prenez si vous avez un expert sur la pauvreté ou sur le cancer, il sait tout sur la pauvreté. Le cancer, il est capable de vous faire des cours, il a toutes les courbes, il sait tout. Il a son fils, on lui dit qu'il a un cancer du cerveau. Il va accéder à une connaissance de la maladie d'un autre ordre. Et puis on lui dit que lui-même est affecté d'un cancer du cerveau. Et là, il va connaître, parce que la médecine n'est pas l'art vétérinaire, ce n'est pas la même chose de soigner des êtres de parole. Et il va accéder aussi à une expérience de la maladie. Alors, le droit reflète ce que vous citez, qui a été réitéré à la fin de la Première Guerre mondiale, puis à la fin de la Seconde, reflète justement cette expérience historique. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, de ce que moi j'appelle la guerre de 30 ans, 1914, enfin, je ne suis pas le premier à le faire, jusqu'à 1944, on se dit, on a cru, notamment le nazisme, qu'on va pouvoir justement gérer l'humain comme du bétail et l'améliorer par des techniques bétaillères. Nous nous apercevons que ça conduit au meurtre de masse. Eh bien, il faut tenir compte de cette expérience. En ce sens, je ne parlerai pas de loi à ce sujet. La recherche des lois s'est exprimée, dans ce qui concerne mon travail, beaucoup plus, par exemple, dans le taylorisme, où on a envisagé l'être humain, là aussi, comme un engrenage, c'est-à-dire c'est l'imaginaire de la physique classique qui a été transporté sur les façons de gérer l'être humain. Aujourd'hui, on est passé à autre chose, qui est plutôt l'imaginaire cybernétique, avec la programmation des
Le travailleur, humains. C'est un programmateur, un être c'est, programmé.
Oui, c'est-à-dire, une des différences, c'est que l'époque du taylorisme ne touchait pas le travail intellectuel, alors que maintenant les savants eux-mêmes sont touchés par cela, ils sont programmés, d'ailleurs c'est des lois de programmation scientifique, leurs résultats sont mesurés, leurs performances par les citations index, et même, m'a-t-on dit maintenant, l'un des premiers critères de recrutement dans certaines universités britanniques, c'est combien avez-vous été capable de lever des fonds dans vos fonctions antérieures. Donc il y a là, effectivement, le déploiement sur l'ensemble des activités humaines d'une nouvelle façon de les considérer, mais qui là encore transpose sur l'humain des schémas qui sont transposés dans des conditions pas réfléchies et qui ne peuvent conduire qu'à des... Alors, je ne vais pas parler de catastrophes. Enfin, si, on pourrait parler, parce que je crois, je vais terminer là-dessus, une notion que j'espère creuser. J'organise au mois de juin un colloque sur, justement, mondialisation versus globalisation, en s'appuyant sur certains textes de Simone Weil, et je compte le conclure par quelques observations sur la notion de limite catastrophique. C'est-à-dire, c'est ce point où l'humain redécouvre le réel, parce qu'à force de s'être enfermé dans les boucles spéculatives de ses représentations, il perd le contact avec le réel, et le réel revient alors comme un boomerang, et c'est ce qu'on peut appeler la limite catastrophique.
Oui, d'ailleurs, vous citez Simone Weil dans l'article des études que je citais tout à l'heure. Elle dit, c'est par le travail que la raison saisit le monde et s'empare de l'imagination folle.
France Culture.
La conversation scientifique par Étienne Klein.
Alors, oui. Stéphane Rosès, tout à l'heure, vous parliez du progrès, de l'idée de progrès, vous parliez de l'imaginaire. L'idée de progrès, elle suppose une sorte de philosophie de l'histoire. Et plusieurs invités de cette émission, à plusieurs occasions, ont remarqué que le mot progrès est un mot qu'on utilise de moins en moins. Justement. Il a été remplacé quasiment par le mot innovation. Oui. La philosophie du progrès, c'est l'idée de configurer le futur, de le rendre désirable et attractif, oui, et de tracer un chemin pour l'atteindre. Oui. Alors que la rhétorique de l'innovation s'appuie sur un état critique du présent qu'il faudrait modifier par l'innovation afin d'empêcher qu'il se déconstruise. Oui. Est-ce que c'est ça qui nous manque, une philosophie de l'histoire, et qu'est-ce que vous appelez l'imaginaire, en l'occurrence français ? Qu'est-ce qui nous manque ? Un récit ? Une projection ?
Je crois que chaque peuple a un imaginaire en ce que il a des modalités de représentation inconscientes qui construisent ensuite un creuset de sa façon de s'approprier le réel. Comme la France n'avait pas d'origine, c'était le cul de basse-fosse de l'Europe, elle s'est construite sans cesse de façon, comme dit Hayek, constructiviste. L'État s'est fait avant la nation, et ça construit des modalités très spécifiques. Le fait que la France soit la fille aînée de l'Église, la monarchie absolue, le fait qu'un pays comme le nôtre ait engendré Descartes, l'idée que l'esprit est séparé du corps, que l'esprit même domine le corps. C'est en écho avec ce que vient de dire Alain Supiot. Les Français pensent que le réel réside dans la raison. La diplomate américaine Madeleine Albright disait « Seuls les Français sont capables de dire « j'y crois en théorie et pas en pratique ». Donc, les Français voient le réel au travers de la raison, par le haut, ça construit leur modalité universaliste.
Ça, c'est un point de vue surplombant.
Voilà, ça fait que les Français pensent qu'on a quelque chose à faire au Mali. C'est un point en commun pour des raisons différentes que les Américains, mais toujours besoin de se projeter. Toujours besoin, et l'idée de progrès, elle est absolument décisive, parce que le progrès, c'est non seulement une vision de l'avenir, mais c'est quelque chose que l'on a construit ensemble, hein, la pensée de l'ingénieur en France. Bon. L'innovation, c'est autre chose. L'innovation, ça se rapprocherait, me semble-t-il, je ne sais pas ce qu'en pense Alain Supiot, beaucoup plus sur les processus actuels, où le mouvement et sa propre finalité, c'est ce qui se passe avec le numérique. C'est-à-dire que les Français sont très bons pour se déployer dans le numérique, mais ils peinent à le penser. Parce que le numérique, c'est justement le contraire des représentations françaises.
Et on fait ce qu'on peut faire sans avoir besoin d'exprimer une volonté générale a priori.
Absolument. Les Français pensent que donc le réel procède de la raison, du haut, de l'universalisable. Le numérique, c'est tout le contraire. C'est le bas, c'est l'expérience client, et c'est un processus qui a sa propre logique. Les Français, sur le numérique, vont se dire « mais où on va, pourquoi, qu'est-ce qu'on fait ?» Les questions déontologiques, les questions éthiques, bon, il y a beaucoup de débats portés par des Français là-dessus. Les
gens du numérique... Pas tellement à l'étranger, vous êtes sûr que...
Il me semble que dans la Silicon Valley, il y a des gens qui théorisent justement le devenir humain, mais le mouvement et sa propre finalité. Ça fonctionne, donc ça va. Alors, le problème, justement, français, c'est que, en un mot, on a toujours besoin, avant de nous mettre en avant, d'avoir une petite idée de là où on va. Et normalement, c'est le politique qui porte ça. Et là,
qui doit exprimer une volonté générale, mais on n'est jamais d'accord sur ce qu'on veut ensemble.
Non, mais justement.
D'où la violence
la loi doit régler. On n'est pas d'accord, Étienne. C'est justement parce qu'on n'est pas d'accord qu'on a besoin. C'est-à-dire, la France fonctionne par dispute commune. C'est justement parce que nous nous disputons depuis le début des temps que nous avons besoin de regarder en commun une même direction, de sorte que la dispute et la diversité qui nous est consubstantielle s'y encastrent. Donc selon moi, il n'y a pas d'un côté la dispute et de l'autre le commun. Il y a un empêchement de la dispute commune, comme nous le connaissons en ce moment, sauf lors des rites présidentiels comme aujourd'hui. Mais quand les gouvernants arrivent au sommet de l'État, là, il y a un empêchement, parce que ça a été dit tout à l'heure par Alain Supiot, la crise européenne vient de ce que les politiques européennes ne sont pas adaptées au génie européen. Je crois que vous aviez dit un jour, Étienne Klein, que la physique quantique avait été les prémices perçues dans un hôtel à Bruxelles où il y avait...
L'hôtel Métropole.
Voilà, l'hôtel Métropole où il y avait des physiciens d'une dizaine de nationalités différentes ensemble.
Tous européens.
Voilà, tous européens. Bon, voilà, ils avaient en commun, comme l'idée de mort de tout à l'heure, le fait d'être européen, c'est-à-dire la différence fait la richesse, et c'est cette friction de différence qui a construit des intuitions ou des convictions scientifiques. C'est ça, le génie européen. Dans un espace clos restreint, depuis des siècles, des peuples divers qui vont construire la pensée occidentale, la pensée des autres. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est le contraire.
Vous dites dans l'article...
L'imaginaire français prétend que par le haut, on va faire des peuples, et l'imaginaire allemand, qui est celui de l'expérience et pas de la raison, prétend par l'économie que chaque peuple doit faire l'expérience de politique monétaire et budgétaire draconienne, de sorte d'arriver à un stade supérieur. Eh bien, la conjonction des deux fait cette chose incroyable, qui est de penser que par des politiques uniques, monétaires et budgétaires, on va fusionner des peuples divers culturellement. Il se passe exactement l'inverse, de sorte que l'Europe régresse économiquement depuis une quinzaine d'années et les peuples se replient les uns sur les autres. Donc l'imaginaire doit faire coïncider les représentations culturelles, les modalités politique d'assemblage des sociétés, et puis les politiques économiques et règles juridiques elles-mêmes.
Alors dans l'article de la revue Commentaire à paraître, je crois que vous dites à peu près la même chose, mais en d'autres termes, vous dites la France va devoir résoudre la tension qui apparaît entre ce que nous sommes et le monde extérieur. Et vous dites, la victoire au présidentiel appartiendra à celui qui énoncera et proposera la meilleure façon de résoudre cette tension. Je pense que vous avez écrit cet article avant la primaire socialiste.
Oui.
Et vous expliquez comment les différents candidats tentent de résoudre la question. Je vous cite, lors de la primaire du centre et de la droite, François Fillon a plaidé pour l'adaptation au monde extérieur, quitte à changer de façon radicale notre modèle social, et en contrepartie, il propose un conservatisme moral. Emmanuel Macron dit que l'empêchement français au déploiement de son génie dans le XXIe siècle vient des blocages des institutions et du personnel politique qu'il a fréquenté. Manuel Valls propose la République comme modèle culturel et incarne un volontarisme politique par rapport à l'extérieur, etc. Vous parlez d'Arnaud Montebourg, de Jean-Luc Mélenchon, de Marine Le Pen, etc.
Et je ne parle pas d'Hamon, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Bah, Hamon, il dit on verra plus tard. ce qui lui permet de déployer des idées apparemment originales, selon moi pas forcément adaptées à ce que nous sommes comme le revenu universel minimum, ou des questions écologiques, mais du coup il semble dire des choses un peu concrètes, mais c'est l'après, mais peu importe. L'intuition de fond, c'est qu'on ne redressera pas la France si on n'opère pas dans le même moment une renaissance européenne. Et pour ça, il faut beaucoup de clairvoyance, de lucidité et de courage.
Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on pourrait dire que l'imaginaire français est en berne, il manque d'activation.
Alors il est activé d'un certain point de vue. Emmanuel Macron va chercher l'énergie enfouie des Français en leur disant non, c'est pas vous qui êtes malade dans la dépression française. Vous êtes géniaux, vous êtes merveilleux, mais ça bloque en haut. Le 11 janvier, 4 millions de Français dans la rue. François Hollande avait utilisé le terme de l'esprit du 11 janvier. C'était bien la preuve qu'il y a une énergie dans notre pays incroyable. Il y a une énergie au quotidien sur les territoires, dans les entreprises. Les entreprises françaises sont les deuxièmes en termes d'innovation dans le monde. Nous avons sur les territoires une transition écologique qui se met bon an mal an en place. Donc il y a beaucoup d'intelligence chez nos chercheurs.
Vous dites que les deux tiers des leaders économiques et d'opinion étrangers pensent que la France peut tirer parti positivement de la mondialisation, alors que les leaders français pensent le contraire.
Oui, dans une étude que j'avais co-construite avec HEC, Ernst & Young, Havas, W et compagnie, c'était tout à fait remarquable. Ce sont nos amis étrangers qui comprennent nos singularités. Les Français ne peuvent pas comprendre. En règle générale, les peuples, demander à un peuple de se comprendre, c'est comme demander à un poisson rouge de comprendre pourquoi il est dans un bocal. Donc il faut du temps, c'est l'extérieur qui permet. Moi, il m'a fallu, je sais pas, 25-30 ans. Par contre, Cioran, il arrive en France, il a 30 ans, il connaît très bien la littérature et dans un petit opuscule, il dit très vite notre singularité. Donc c'est l'autre qui permet de comprendre ses propres singularités. Et les Français étant universalistes, ils ne le peuvent pas. Quand nous insistons sur les spécificités culturelles, les Français nous traitent d'essentialistes, de culturalistes, voire pourquoi pas de racistes, parce qu'ils confondent la différence et l'égalité.
Alain Supiot, je vais ressolliciter votre voix pour que vous nous disiez quel est votre choix musical. C'est le moment venu pour l'écouter.
C'est une chanson de Daniel Wood, qui est un chanteur camerounais. On va pouvoir l'entendre. Je pourrais vous en dire un mot après,
on
si
va
vous voulez.
Heureusement que j'ai mon cousin militaire. Heureusement que j'ai mon cousin militaire. Oh, je serai déjà au cimetière, à 2 mètres sous terre. Pauvre cadavre, simple squelette, en train de sourire comme tous les squelettes de la terre, qui n'arrête pas de sourire, le sourire de la mort, mort de misère, misère des hommes pauvres macabres. On m'appelle Monsieur Galère, on m'appelle Tonton Misère, je vis dans un quartier populaire, et nous sommes de vrais prolétaires. Insuffisance alimentaire, vestimentaire, monétaire, nous sommes de vrais prolétaires et nous sommes majoritaires.
Alain Supiot, voilà un air qui ne manque pas d'air. Pourquoi ce choix?
D'abord parce qu'on n'entend plus beaucoup de chansons en langue française qui soient chargées de sens sur les radios en général. Et c'est dans ces pays qu'on fait vivre sans doute la langue française avec le plus de bonheur. Et d'autre part, évidemment, les paroles sont assez transparentes sur ce point de vue, puisque l'émission, vous m'aviez dit qu'il serait question de globalisation, de mondialisation. Nous avons ainsi un point de vue, et ça me permet peut-être de poursuivre sur ce qu'évoquait Stéphane, c'est-à-dire la nécessité, en tout cas dans les disciplines dont je relève les sciences humaines, ce qui peut nous servir d'objectivité, donc l'équivalent de l'expérimentation, c'est la diversité des points de vue qui est indispensable, parce que l'être humain n'est pas immergé dans le réel, il est dans le réel au travers de ce système de symboles. Et ces systèmes de symboles sont aussi variés que le nombre des langues.
C'est pour ça que vous êtes contre le tout anglais.
Alors, je suis contre. Enfin, quand j'assiste moi-même à Paris à des réunions de conseils scientifiques où on distribue de l'argent entre équipes françaises qui sont sommées de faire des projets sur Rimbaud qui sont écrits dans un anglais d'aéroport, j'avoue que je ne pense pas qu'il y ait là les voies d'une progression du savoir. Donc c'est presque une défense de l'anglais pour laquelle je plaiderai ici. Mais ce que je veux dire ici, c'est que la diversité des langues, c'est une diversité des modes d'accès au réel, et que de la même façon que Okuza y a éprouvé le besoin de peindre 100 fois le Mont Fuji sans arriver à nous dire exactement quelle était la réalité du Mont Fuji, nous avons besoin de cette pluralité des points de vue. Et c'est pourquoi, en ce qui me concerne, j'ai consacré pas mal de temps à essayer de développer une approche des recherches en sciences humaines qui renouvelle l'universalisme français, qui ne doit plus être pensé comme la projection sur le reste du monde des lumières que nous aurions vers l'obscurité qui est censée régner vers les pays du Sud, mais qui, au contraire, se mettrait à l'écoute de la diversité des modes de pensée et nous permettrait un retour critique sur nos grandes catégories de pensée, quand j'évoquais tout à l'heure celles qui sont à la base de la globalisation, contrat, responsabilité, propriété, si vous les prenez, alors puisqu'on parlait de l'Afrique ici, appliquer mécaniquement le concept de propriété de la terre aux sociétés africaines ne peut conduire qu'à la violence. On le sait, puisque la terre, grâce aux travaux notamment d'une anthropologue qui s'appelle Danuta Liberski, à la lecture de laquelle je dois beaucoup, la terre est une instance souveraine aux yeux des Africains, donc ce n'est pas le lopin de terre. Donc on aura leur reproduction de ce qui s'est passé avec les Indiens d'Amérique, auxquels les colons au bon cœur, parce qu'il y avait quand même des colons au bon cœur, qu'on dit on va leur donner un petit lopin à chacun. Bon, la culture des Indiens d'Amérique du Nord, le nomadisme n'est pas une déterritorialisation, contrairement à ce que des lectures fumeuses de Deleuze, c'est un rapport différent au territoire. Et nous avons besoin de la différence de ces rapports. C'est pourquoi nous aurions besoin d'institutions de recherche qui, au lieu de se mettre simplement à être les mauvais clones d'un modèle fantasmé, qui est celui où, à la fin du compte, on choisit les gens en fonction du fundraising dont ils sont montrés capables, je le répète, c'est de faire de la France à nouveau un lieu qui tente de contribuer à l'intelligibilité à laquelle vous nous appelez, en donnant les moyens à des gens de se rencontrer dans des conversations, parce que aussi l'art de la conversation qui vous est cher est quelque chose qui a à peu près disparu de nos universités, puisque les gens ne se rencontrent plus que pour se distribuer ou de se disputer les crédits.
Ça veut dire que pour vous, le droit, en tant que discipline, en tant que science, on pourrait dire, doit tenir compte de la culture? Surtout la culture, et non pas simplement de la compilation des juridictions.
Mais je peux vous retourner la question, comme ça m'épargnera ma voix. Qu'est-ce que c'est le droit pour vous?
Pour moi, c'est des textes, des références. Et en vous lisant, je découvre que mon idée, ma conception était réductrice. Et qu'en effet, le droit, c'est beaucoup plus compliqué que ce que j'imaginais. C'est pas simplement une compilation de textes écrits qu'il faudrait connaître.
L'efficacité, oui, c'est pas seulement une efficacité.
Il y a aussi la question de l'adaptabilité de la loi et de, finalement, écrire une loi, ça, pour ce que j'ai compris, c'est, écrire une loi, c'est comparer la société telle qu'elle est à ce qu'elle pourrait être. Il y a une sorte de point de vue, au départ, qui met la société en crise puisqu'on essaie de la penser autrement qu'elle est.
On pourrait dire, qu'il y a les poncifs du retard de la loi par rapport aux faits, mais connaissent la complexité de leur rapport. Si je dis que, par exemple, j'inscris dans un texte international l'égalité des êtres humains ou l'égalité des hommes et des femmes, ce n'est pas en retard sur les faits, ça tend à être en avance sur les faits. Et ensuite, on va mesurer le succès de ce texte, à sa capacité à transformer le réel. Mais ces textes eux-mêmes sont enracinés dans un certain moment de l'histoire. Le droit occupe aujourd'hui une fonction qui a, dans l'histoire longue des cultures, pu être occupé par d'autres dispositifs. Ce qu'on appelle religion, qui est un mot qui est devenu presque inemployable tellement il est chargé d'ambiguïté, ou bien le ritualisme dans les sociétés orientales ou africaines. Parce que si vous voulez, la question qui se pose à l'être humain, et là on touche à des choses qui relèvent de l'anthropologie, c'est que accédant avec son cerveau monstrueux, c'est un fait anatomique qu'Alain Prochian rappelle volontiers. Par son cerveau monstrueux, il accède à un univers de symboles qui fait que sa vie se déploie à la fois dans l'univers digestif et organique de son existence, celui du troupeau dont nous parlions tout à l'heure, et d'autre part dans un univers de symboles dont il est maître jusqu'à un certain point. Et cet univers le met sur la pente du délire individuel, de la toute-puissance, etc. Donc il faut, en toute société, des mécanismes qui construisent ce que Katsouriadis, qui est un des premiers à avoir mis vraiment cette notion au service de la pensée institutionnelle, appelée l'institution imaginaire de la société, c'est-à-dire un imaginaire qui s'impose à tous dans une collectivité donnée et qui, dans une société démocratique, relève aussi de la voix de chacun.
France Culture.
La conversation scientifique par Étienne Klein.
Alors, Alain Supiot, comme votre voix m'a l'air d'aller très bien, je vais en profiter. J'ai lu le discours de clôture que vous avez prononcé le 4 juillet 2016 au ministère de la Recherche, à l'issue d'un séminaire dont le sujet était « Transfert des connaissances en sciences humaines et sociales ». Et dans ce texte, vous citez deux conférences qui ont été prononcées, je crois, juste après la Première Guerre mondiale, par Max Weber, qui s'intitule « Le savant et le politique ». Alors, le savant, c'est le chercheur en sciences sociales, on dirait aujourd'hui. C'est pas le physicien.
En allemand, c'est Der Gelehrter, qui est une figure très importante dans l'imaginaire allemand. Alors là, pour le coup, en France, ça paraît presque un mot comique. Mais c'est celui, dit Weber, qui a la vocation, il parle de vocation, Beruf, justement, qui va se consacrer à une meilleure intelligibilité du monde. C'est ça qui l'anime. Et Weber fait cette remarque extrêmement juste et que les scientifiques ne méditent pas suffisamment, mais enfin on ne peut pas leur en faire reproche, c'est que ce qui fonde la liberté scientifique ne peut pas être la science elle-même. L'idée que ça vaut la peine de comprendre le monde et de donner la liberté et les moyens des hommes de le faire, ça doit être fondé en droit d'abord. Et ce sont les régimes politiques qui ont cru pouvoir se fonder sur la science, comme le nazisme ou le socialisme scientifique, qui ont été les plus dévastateurs pour la libre recherche scientifique, dont les rapports droit et science ne sont pas non plus ce qu'on a tendance à dire. Alors Weber, ça je crois, l'avait compris, et il distingue, et il s'interroge sur ce rapport entre celui qui a la vocation d'essayer de mieux comprendre le monde et celui qui agit sur le monde par la politique. Comment communiquer entre l'un et l'autre? Et c'est une question qui se passe à nous tous, parce que je pense qu'aujourd'hui, en matière de climatologie, en matière de risques sur les produits biochimiques et tout ce que vous voulez, on croit le résoudre par l'expertise, mais c'est beaucoup plus compliqué à penser les rapports.
Et pourtant, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour juger que les sciences humaines sont inutiles. Au Japon, par exemple, on a annoncé la fermeture de 26 facultés de sciences humaines jugées inutiles. Comment est-ce que vous comprenez cette...
Il n'y a pas besoin d'aller au Japon. Enfin, nous, on ne ferme pas les facultés, mais j'ai été témoin, je suis membre du Conseil stratégique de la recherche, de la pensée dominante consiste à dire qu'au fond, avec les bases de données et puis la neurobiologie, on va pouvoir liquider tout ça. C'est-à-dire que c'est une projection de l'imaginaire cybernétique que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que les êtres humains pourront être... On peut les analyser au travers de leur comportement et par la connaissance fine de ces comportements et des bases de données suffisantes, on pourra ensuite programmer ces comportements. Donc c'est, je crois, la tendance lourde. Et alors dans le petit discours que le secrétaire d'État avait bien voulu demander de prononcer avant de conclure lui-même cette journée, j'avais tenu à le dire. dire, puisque c'était dans le contexte des études produites sur la déradicalisation, et faire remarquer en particulier que on n'a pas vu jusqu'à présent des chiens terroristes ou des rats de laboratoire. Il y a un phénomène proprement humain. Donc si on veut penser les phénomènes de violence extrême, projeter là-dessus les techniques des sciences exactes ne nous mènera pas bien loin.
Stéphane Rosès.
Tout à fait d'accord. Ce qu'il y a de très troublant, c'est de voir à quel point, même dans un pays comme la France, nos gouvernants semblent s'en remettre à la pseudo rationalité et efficacité de l'économie. Si les Allemands sont les plus compétitifs en Europe, c'est parce qu'il y a une cohérence totale entre qu'est-ce que pour un Allemand, un peuple qui se tient au travers de sa capacité à relever un défi, n'est-ce pas ? Ça, c'est très important. C'est l'expérience du partage du défi qui, depuis la guerre des paysans et la guerre de 30 ans, a peu constitué ce qui deviendra le peuple allemand. Leur conception monétaire et budgétaire, et ensuite les compromis politiques et sociaux qu'ils prennent. C'est pareil au niveau d'une entreprise. Une entreprise qui crée de la valeur, j'ai pas dit... Qui se valorise sur les marchés, je dis qui crée de la valeur, et celle dans laquelle il y a une cohérence entre sa culture, qui procède des métiers, de son histoire capitalistique ou publique, son type de management, ou ce qu'est le président ou la présidente, et puis qu'est-ce qu'on fait, comment on se déploie sur les marchés ou dans la nation, si c'est un service public. Donc ce qui est très important, c'est des questions de cohérence. Les modèles, on a entendu un président Ciable dire qu'on pourrait changer de modèle, de logiciel. Les modèles sont les modèles. On n'en change pas. On les améliore, on les réforme, ils avancent. Mais la façon qu'ont les peuples de construire par l'hétéronomie dont parlait tout à l'heure Alain Supiot, qui ont des modalités différentes, la religion, le monarque, l'autocratie, le droit, la politique, c'est justement d'aller chercher une instance autre qui permet d'articuler le gouvernement des hommes et le gouvernement des choses. Et comme au plan de la globalisation économique, financière et numérique, il n'y a plus ces instances. La mondialisation comme mosaïque d'imaginaires nationaux différents a lâché prise et a lâché, je dirais, du fait des grandes révolutions financières, technologiques, des nouvelles technologies. Il y a un emballement du monde par la globalisation qui semble échapper à la mondialisation.
Si
et du coup,
bien,
les peuples ont le sentiment que leur destin leur échappe. Et Trump, c'est pour partie ça. C'est pas seulement les effets de la crise des subprimes sur les classes moyennes, les catégories populaires. Oui, mais c'est d'abord une volonté archaïque, régressive, de se réapproprier un destin qui échappe, y compris dans les excès.
Parce qu'on a trop administré les choses plutôt qu'on a gouverné les hommes.
C'est qu'ils pensent, bon, on peut le dire, mais le président de la République actuelle pense que c'est l'économie qui fait la société, alors même qu'il avait été élu dans un processus politique, et ce qu'il développera ensuite sur la présidence normale ou dans un papier du débat où il dit « mais le président de la République n'est qu'un émetteur parmi d'autres », l'a amené au fond au renoncement de l'idée même de se représenter. Il a mésestimé la portée symbolique dans un pays comme le nôtre du président de la République qui ne vaut pas seulement pour ce qu'il est politiquement et fait économiquement, mais qui vaut par la symbolique qu'il est, parce que justement la dimension symbolique du président de la République permet aux Français, qu'ils aiment ou pas François Hollande, de se retrouver dans lui, parce que le sujet, c'est pas lui et les Français, le sujet c'est que les Français, pour s'assembler entre eux, ont besoin d'une symbolique politique qui les dépasse, et contrairement à ce qu'il pense et son prédécesseur, la proximité d'un président de la République ne vient pas du fait qu'il se comporterait comme les autres, présidence normale ou jargonnerait son prédécesseur comme les Français. Non, la proximité pour les Français d'un président de la République, c'est justement par sa capacité de laisser un petit écart entre sa dimension symbolique, il est président de la République, et sa personne humaine, politique, qu'il, je dirais, agit comme il agit. Donc la question de la symbolique dont parlait Alain Supiot est absolument décisive. Et c'est sa mécompréhension par les grands décideurs du monde actuel qui fait que le monde en est où on est, et dans les sciences humaines, la prévalence de l'économicisme sur les autres secteurs, une sociologie d'une grande pauvreté de ce point de vue-là, et le besoin de revenir à l'histoire de l'économie, à l'histoire du droit, à l'anthropologie et à la philosophie.
Est-ce que vous pensez, Alain Supiot, que cette élection présidentielle qui se prépare réactive l'imaginaire au sens où Stéphane Rosès le définit ? Est-ce que les sciences humaines et sociales peuvent contribuer à cette renaissance ?
Je ne suis guère équipé, y compris du point de vue phonique, pour m'exprimer sur les élections présidentielles. Ce que l'on peut dire clairement, c'est que ce pays est notamment sa jeunesse, qui m'est donné de rencontrer régulièrement. Je suis souvent invité. D'abord, il y a l'auditoire du Collège de France, mais je suis souvent invité à rencontrer des jeunes chercheurs ou des étudiants qui tous sont dans une sorte de, pas d'effarement, enfin de questionnement quand même sur comment en sortir, où allons-nous. Et la seule réponse que je puisse donner à cette question, c'est il faut d'abord commencer par s'interroger sur le monde que nous voulons. Il faut se rappeler que le Conseil national de la Résistance a élaboré son programme en pleine occupation allemande. C'est dans une période où la France allait beaucoup plus mal qu'aujourd'hui. Et si on n'est pas capable de tracer ainsi l'idée d'une aventure, d'une entreprise commune, il n'y a pas d'action politique vaillante. Or, j'ai l'impression qu'entre ceux qui promettent à la jeunesse des contrats précaires, ceux qui disent que leur avenir doit être de devenir milliardaire, ceux qui disent que, écoutez, avec 900 euros et puis un peu de cannabis, vous allez survivre. Je pense que le dernier élément serait à ce moment-là la mort assistée, d'ailleurs, qui est aussi au programme. Je crois qu'aucune de ces trois perspectives actuellement ne répond à la quête de sens qui anime une grande partie de la jeunesse de ce pays.
Bon, c'est un constat.
Mais je sors de la neutralité axiologique.
Cher à Max Weber,
voilà,
trahissez Weber.
Excusez, j'empiète sur un jugement de valeur.
Stéphane Rodez, vous avez le mot de la fin.
Les Français vont se précipiter aux urnes. Les candidats ne sont que des acteurs de la réactivation de l'imaginaire
français. Pas des auteurs.
Pas des auteurs. Une fois arrivés à l'Élysée, ils pensent qu'ils redeviennent auteurs, d'où les hiatus, parce qu'ils sont au sommet d'un État qui se retire de la nation pour des raisons objectives liées au type de construction européenne actuelle. Mais les Français vont se précipiter aux urnes parce que les questions posées au pays sont absolument existentielles et ils agrippent ceux qui leur semblent offrir une réponse de la tension entre nous et les autres, y compris Marine Le Pen qui dit « mais c'est à nous de décider de tout, de notre avenir et pas les étrangers ».
Le moment est venu non pas de passer un troisième morceau musical, mais de vous remercier d'avoir accepté cette invitation et de nous avoir aidé à mieux comprendre la mondialisation ou la globalisation, je ne sais pas. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique Jean Richard Dufour et à la réalisation François Connac.
Faites quelque chose pour moi, mes frères. Je veux pas mourir dans la misère. Je veux pas finir dans la galère. Heureusement que j'ai mon cousin militaire. Je vais les mettre à nos haïs de Moudaouya. Je vais les mettre de Moudaouya. Je vais les mettre à nos haïs. Heureusement que j'ai mon cousin militaire. 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 Heureusement que j'ai mon cousin militaire.
Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouverez Antoine Guillot pour Plan Large, le rendez-vous cinéma de France Culture.